s'établit déjà à plus de 2 milliards 100 millions d'euros. En ce qui concerne les marchés actions, les marchés d'échange, pardon. Depuis ce matin, on note une reprise du dollar. Alors bien sûr, il reste dans de très bas niveaux, mais enfin, il avait été jusqu'à 1,28 $ ce matin. On est maintenant à 1,2681 $. Il était remonté même un petit peu plus haut pendant un moment, mais à 1,2681 $, il gagne 0,60% par rapport à l'euro. Alors on se demande si c'est une tendance qui va être significative, ce retournement. Sûrement pas. C'est pas ce que pensent les marchés. D'ailleurs, on voit bien que les marchés actions restent sceptiques. En attendant, quand même, petite reprise technique du dollar. En revanche, les marchés actions continuent à consolider la forte hausse qu'ils avaient connue auparavant, le CAC -0,43% à la Bourse de Paris pour France Inter. Jean-Pierre Gaillard.
Et on termine tout de suite avec l'arrivée des courses sur l'hippodrome de Pau. Première course, le 4 était non partant. Premier, le 7, 4,60 à 80. Deuxième, le 5, de 20. Troisième, le 3, 6,50. Deuxième course, le 14 était non partant. Premier, le 5. Deuxième, le 13. Troisième, le 10. Quatrième, le 3. Et cinquième, le 4. Il est 14h04 sur France Inter. Tout de suite, 2 millions d'histoires avec Patrice Gélinet.
Merci Alexandra et bonjour à tous. Aujourd'hui, un philosophe devenu président de la Tchécoslovaquie, Václav Havel.
L'idée que l'écrivain est la conscience de la nation est chez nous historiquement justifiée. Václav Havel.
Ans d'histoire. Lorsqu'ils l'ont vu apparaître sur un balcon de Prague le 21 novembre 1989, les 200 000 manifestants qui étaient ce jour-là sur la place Venceslas connaissaient tous son nom. Mais presque personne ne connaissait son visage. Quelques semaines plus tôt, Václav Havel était encore en prison. Et si ces pièces de théâtre étaient jouées dans le monde entier, elles étaient interdites dans son propre pays. Mais ce 21 novembre 1989, ce n'était pas un écrivain que les Pragois étaient venus acclamer. C'était le dissident tchécoslovaque qui, depuis des années, luttait contre les régimes communistes et pour la liberté d'un peuple qui, depuis plus de 40 ans, vivait sous la tutelle de l'Union soviétique. 21 ans plus tôt, en août 1968, sur la même place Venceslas, les blindés de l'armée rouge avaient mis un terme au printemps de Prague. Mais en cette fin d'année 89, il n'y avait plus de chars russes pour empêcher la chute du communisme en Tchécoslovaquie et l'arrivée au pouvoir de Václav Havel, devenu président de la République le 29 décembre
1989.
Vous venez d'entendre Alexandre Dubček le proclamer officiellement. Václav Havel a été élu ce matin à l'unanimité par l'Assemblée nationale président de la République de Tchécoslovaquie. Aussitôt après cette élection, le nouveau chef de l'État tchécoslovaque a prêté solennellement serment.
Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické république.
Je jure en mon honneur et ma conscience fidélité à la République socialiste tchécoslovaque. Je veillerai au bien-être des nations et des nationalités. J'assumerai mes obligations en accord avec la volonté du peuple et dans son intérêt. Je respecterai la Constitution et toutes les autres lois.
Geneviève et Vingrand Boulan, bonjour.
C'était
Václav Havel le jour donc où il est devenu président de la République tchécoslovaque. Vous venez de lui consacrer un livre, Václav Havel, un président philosophe. C'est vrai que c'est rare dans l'histoire de voir un écrivain, un dramaturge, un intellectuel devenir président de la République.
Oui, effectivement, on peut même se demander si c'est le rôle du philosophe d'intervenir dans la vie publique. On pourrait voir ici, si vous voulez, déjà au niveau des origines historiques de la Tchécoslovaquie. Il y a un précédent dans l'histoire de la Tchécoslovaquie, puisque quand elle a récupéré son indépendance en 1918, le président Thomas Garrigue Masaryk, puisqu'il avait adjoint le nom de sa femme à son propre nom par un féminisme que je ne peux qu'approuver, Thomas Garrigue Masaryk qui a donc été président de 1918 à 1935 de la première république tchécoslovaque, avec beaucoup de succès d'ailleurs, puisque c'était un pays démocratique et florissant, fortement industrialisé d'ailleurs, dans l'entre-deux-guerres. Ce président était philosophe, et il a, ça c'est la première raison, je dirais, historique, mais si on remonte de façon plus fondamentale, aux bases même de sa démarche, Masaryk a dit qu'il avait toujours allié morale et politique, et qu'une fois président, il n'avait jamais failli à ses idéaux.
Alors cela dit, pour Václav Havel, même quand il est devenu président, il a dit « je suis d'abord un écrivain hein, ». Il était décidé à continuer à écrire. Et alors c'est vraiment une vocation qui lui est venue très tôt. Il disait « je crois, j'ai écrit en même temps que j'ai appris l'alphabet hein ». Il est né, il faut le rappeler, en 1936. Et très vite, très tôt, il se met à écrire dans des conditions très difficiles. Hein, je crois, Geneviève Evin-Grandboulant.
Oui, en fait, ce qu'il faudrait noter, si vous voulez, c'est que en raison de ses origines bourgeoises, il n'a pas eu le droit d'aller à l'école très longtemps. Et donc, en fait,
Oui, ça, c'est après que la Tchécoslovaquie soit devenue
c'est après le coup de Prague de 48, puisque la période de liberté de la Tchécoslovaquie a été très courte. Ils ont été sous le joug austro-hongrois pendant plus de 3 siècles. Ils ont récupéré leur liberté donc en 1918 jusqu'à l'entrée des Allemands avant la guerre de 40. Donc en Tchécoslovaquie, il y a donc eu une période ici encore de soumission à l'Allemagne nazie, puis en 45 ils ont récupéré brièvement leur liberté, et puis le coup de Prague qui a été ce qu'on a pu appeler avec Pavel Tigrid un elegant takeover, c'est-à-dire un coup d'état élégant, puisqu'en fait c'était légal, c'était simplement une démission de ministre laissant à la majorité communiste la place. Ce coup de Prague donc a donné naissance à ce régime communiste qui a perduré jusqu'à la fin de l'année 89.
Et comme Václav Havel était fils de bourgeois et que c'était considéré comme un crime, alors on l'a empêché d'étudier. Il a dû travailler pour pouvoir justement suivre des études. Je crois qu'il travaillait comme machiniste dans un théâtre, le théâtre de la Bessarab.
Il a même été avant charpentier. Enfin, mais sa mère avait peur parce qu'il avait le vertige. Il a été laborantin et il a fini par aller dans un théâtre.
Alors justement, c'est là qu'il se met à écrire et à écrire des pièces de théâtre. Pourquoi est-ce qu'il privilégie le théâtre? Il veut être écrivain, certes, mais c'est le théâtre par lequel il veut s'exprimer. Geneviève Evin-Grandboulant.
Il a essayé plusieurs choses. En particulier, il a baigné, si vous voulez, dans les courants de la littérature d'avant-garde, puisqu'il n'a pas été à l'école, si vous voulez, il a fait l'économie de la littérature socialiste, et il a été d'emblée baigné dans la littérature marginale, l'autre culture, comme on l'a appelé. Donc, en particulier, la poésie issue du mouvement des Vietsil, c'est-à-dire, disons, dans la lignée du surréalisme, en particulier dans les contacts avec André Breton dans l'entre-deux-guerres, et également dans la période des années 50, avec un écrivain marginal à qui il a consacré créé un texte qui s'appelle Beauville Rabal, qui est un écrivain très peu connu en France, bien qu'il y ait plusieurs dizaines de ses œuvres qui soient traduites.
En tout cas, pour lui, le théâtre était le moyen d'exprimer son refus déjà du régime totalitaire en Tchécoslovaquie, un régime ébranlé en 1968 par l'arrivée au pouvoir d'Alexandre Dubček, qui tente de réformer le socialisme, hein, c'était l'expérience du socialisme à visage humain, ce qu'on a appelé le printemps de Prague, écrasé en août 1968 par l'arrivée des chars soviétiques.
Tout de suite un flash de dernière minute, les chars soviétiques sont à Prague, les troupes soviétiques, bulgares, polonaises, hongroises et est-allemandes ont envahi la Tchécoslovaquie cette nuit.
On espère que le monde dehors nous aide. Parlez à tout le monde. C'est ce qu'arrive à Prague à ce moment, à Tchécoslovaquie à ce moment. Peut-être que la voix de tout le monde nous aidera.
Ici Prague. Attention, nous venons de recevoir une déclaration du gouvernement tchécoslovaque. Je cite. Le gouvernement a donné l'ordre au ministère des Affaires étrangères de protester contre la conduite des troupes d'occupation et contre leurs activités envers les organes du gouvernement. C'était une proclamation officielle du gouvernement tchécoslovaque. Vous êtes à l'écoute de Radio Prague en langues étrangères. Nous continuerons nos émissions aussi longtemps que les circonstances le permettront.
Et les émissions de Radio Prague que l'on vient d'entendre vont être évidemment interdites. La Tchécoslovaquie va être reprise en main par les Russes. Dubček va être écarté du pouvoir, remplacé par Gustav Ušák. Et la Tchécoslovaquie va être victime, comme on dit, d'une normalisation, c'est-à-dire en fait d'une remise au pas. Quelle était l'attitude de Václav Havel à ce moment-là, pendant ce printemps de Prague et pendant son écrasement, Geneviève Evin-Grandboulant?
Disons que dans la période qui a précédé immédiatement le printemps de de Prague, il a participé au mouvement littéraire, toujours dans un souci d'indépendance et de critique du pouvoir en place. En 68, il a eu la chance de pouvoir faire un voyage aux États-Unis, donc il n'était pas directement impliqué dans les événements. Quand il est rentré, il était sur une radio à Liberec, et en fait, dans la période qui a immédiatement suivi, il est devenu véritablement un paria, je dirais encore pire qu'en raison de ses origines bourgeoises, mais avec des attaques extrêmement virulentes contre lui. Et ses livres ont été interdits, découpés, on a découpé son nom dans les bibliothèques, etc.
Il faut dire que beaucoup d'intellectuels sont partis, ont été obligés de fuir, un très grand nombre ont été arrêtés, même le parti communiste qui suivait Dubček a été littéralement épuré. Il y a des intellectuels, il y a des artistes comme Miloš Forman, Milan Kundera qui vont partir en exil. Lui, il reste pour écrire, en fait.
Il reste parce qu'il se considère comme un écrivain engagé. Pour répondre un peu mieux à votre question tout à l'heure sur le théâtre, pour lui, la politique est un théâtre et le théâtre est une politique. C'est-à-dire que l'un et l'autre vont de pair et c'est la raison pour laquelle il est resté comme écrivain et intellectuel engagé.
Engagé avec des pièces contestataires, comme celle d'ailleurs comme il le faisait déjà avant 1968, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, hein, il s'est toujours considéré comme un écrivain engagé lui-même. En 1963, hein, sa première pièce, La fête en plein air, est déjà une attaque très virulente contre le totalitarisme. Alors, c'est l'histoire, hein, très drôle d'un couple ordinaire, de socialisme réel et ordinaire. Monsieur et Madame Ploudek, très soucieux de l'avenir de leurs deux fils, Hugo et Pierre. Alors, Hugo, c'est l'enfant idéal, destiné à devenir un cadre du parti. Alors, ils ne savent que faire de l'autre, hein, c'est Pierre, la brebis galeuse. Tout le monde dit que Pierre a une tête d'intellectuel bourgeois, s'inquiète sa mère. Il pourrait nous attirer des ennuis. Alors pour Hugo, hein, en revanche, M. Ploudek échafaude un avenir radieux et l'envoie se faire des relations à la fête en plein air de l'office de la liquidation. Alors, c'est l'occasion pour Vaclav Havel de se moquer du langage bureaucratique. À l'entrée de la fête, la secrétaire déclare « Vous trouvez à l'entrée B13. Vous pouvez danser à condition de produire une autorisation délivrée par le comité d'organisation. Et cela sur la grande piste A, de 11h30 à midi et d'1h moins le quart à 1h30. Si vous souhaitez employer des accessoires divers, tels que chapeau en papier, nez, postiche, etc., vous pourrez vous en procurer au dépôt de la section par l'intermédiaire de la dite section, etc. » Et la secrétaire dit très sérieusement cette phrase qui fait frémir: plus vous attendez votre tour avec discipline, plus vite votre tour viendra. Alors ces thèmes, on les retrouve aussi chez Václav Havel plus tard, sous une forme plus directement politique, hein, ce sera après 68. En 1975, notamment dans sa lettre ouverte à Gustav Husák, Husák est alors le secrétaire général du Parti communiste tchèque et le dirigeant du pays. Alors nous sommes bien sûr en pleine normalisation post-printemps de Prague, et Václav Havel prend des risques. Dans cette lettre, il décrit une société morose, soumise, en apparence d'accord avec le gouvernement, mais qui, dit-il, a peur. Par crainte de perdre sa place, l'instituteur enseigne des choses auxquelles il ne croit pas, écrit donc Václav Havel. Par crainte de son avenir, son élève les répète après lui. De peur de ne pas pouvoir continuer leurs études, les jeunes adhèrent à l'Union de la jeunesse. Les gens votent aux élections et font semblant de prendre cette cérémonie pour de réelles élections. De peur d'être dénoncés, ils n'expriment jamais publiquement et même en privé leur véritable opinion. Or, cette dénonciation de Havel est d'autant plus forte que le pouvoir socialiste, hein, prétend avoir pour idéal, dit-il, la libération complète de l'homme. Mais, demande Václav Havel, qu'est-il advenu de l'homme, jouissant d'une justice sociale et légale, participant de façon créatrice au pouvoir économique et politique, élevé dans sa dignité humaine, rendu à lui-même?
Deux textes très différents, Geneviève et Evin Gamboulon. Peut-être une réaction d'abord sur le premier, cette pièce de théâtre, La fête en plein air. On voit bien que là, il attaque le régime, mais en s'en moquant. Hein. C'est sur le mode ironique qu'il dénonce les absurdités du totalitarisme.
Oui, il dénonce le langage complètement vide. Mais plus loin que ça, celui-là, il faut même aller au-delà d'un théâtre purement politique, pour ce qui est une dénonciation du matérialisme dialectique et du langage vide. Mais au-delà, il y a même une interrogation plus profonde qui fait que ce théâtre n'est pas simplement un théâtre de dissidents, parce qu'on s'est demandé si c'était simplement un théâtre de circonstances ou s'il avait valeur universelle. En fait, la question finale est la question de l'identité, de la recherche par l'être humain de sa propre identité. Or, Hugo, le fameux futur cadre du Parti communiste, en fait, à la fin de la pièce, il ne sait même plus qui il est et se rend visite à lui-même. Alors que l'intellectuel bourgeois à lunettes, son frère Pierre, rencontre l'amour et aura une vie humaine véritable, une vie équilibrée.
Alors le régime communiste, il l'attaque aussi de front. Hein, on l'a vu dans cette lettre à Gustave Houchard en 75, et puis deux ans plus tard aussi dans une charte qui va faire grand bruit, la charte 77, dont Havel est un des principaux inspirateurs et qui va d'ailleurs provoquer son arrestation. France Inter, Jacques Chabot, le 7 janvier 1977.
Quatre intellectuels ont été arrêtés après avoir signé, ainsi que 200 autres personnes, une charte réclamant l'application des accords d'Helsinki. Trois d'entre eux ont été relâchés, mais le quatrième est toujours en prison. Il pourrait être poursuivi, dit-on, devant les tribunaux.
Alors, quelles sont précisément les revendications qu'on trouve dans ce document? Eh bien, voici des extraits de la charte 77, lue en français par un réfugié tchécoslovaque.
Beaucoup de personnel scientifique et culturel, ainsi que d'autres citoyens, sont l'objet de discriminations pour la seule raison qu'il y a plusieurs années, ils publient légalement et expriment ouvertement des opinions qui condamnent le pouvoir politique d'aujourd'hui. D'autres droits civiques, y compris l'interdiction expresse de toute atteinte arbitraire à la vie privée et familiale, au domicile et à la correspondance, sont sérieusement violés aussi du fait que le ministère de l'Intérieur contrôle de différentes manières.
Alors cette charte 77, on peut pas l'entendre en entier, mais bon, on en a entendu quelques extraits. Geneviève Evin-Grandboulan, d'abord, il en a été un des rédacteurs principaux, un des principaux signataires, Havel.
Absolument, oui, oui. En fait, c'est une défense des droits de l'homme dans la lignée des déclarations de la conférence d'Helsinki de 75 pour réclamer l'application donc de ces textes à l'intérieur de la Tchécoslovaquie, de la même façon qu'en URSS, Sakharov avait mené le même type de combat en tant que dissident.
Il faut rappeler que ces accords d'Helsinki avaient été signés, entre autres, par les États-Unis, mais il y avait aussi l'URSS, tous les pays satellites, et ils prévoyaient justement le respect des droits de l'homme, ce que ne faisaient pas les pays de l'Est.
Oui, et l'URSS, en fait, avait signé en échange de la reconnaissance des frontières, et elle pensait qu'elle n'aurait jamais, enfin, elle espérait bien ne jamais avoir à appliquer les droits de l'homme. Mmh. En fait, il y a eu, disons que les dissidents, aussi bien en URSS qu'en Tchécoslovaquie, ont pris au mot, en quelque sorte, les autorités politiques pour leur demander d'appliquer les textes.
Et les autorités politiques vont les arrêter. On a entendu dans cette archive, Havel va passer son premier séjour en prison. Il va en passer trois, hein, je crois, entre 77 et 89, dont une fois pendant quatre ans, de 79 à 83. À ce moment-là, vraiment, il connaît la prison. Je crois même qu'il y tombe malade, Geneviève Evin-Grandboulan.
Oui, il y a eu d'innombrables arrestations de durée plus ou moins longue. La première, sur laquelle je voudrais revenir un instant, il en a ressenti un sentiment de honte parce qu'en fait il avait fait une demande de libération, une demande de grâce, et le gouvernement l'a manipulé. Alors ça, c'est une caractéristique du totalitarisme tardif, si vous voulez, après 68, ce que Havel a appelé post-totalitarisme, c'est que les méthodes du gouvernement sont subtiles et que même un intellectuel peut s'y laisser prendre. Et donc après, il a fait une espèce d'activisme pour essayer de se racheter. Il a repris son rôle de porte-parole de la charte, et d'une certaine façon il a dit qu'il avait cherché la prison, en refusant en particulier l'exil qu'on lui a proposé à maintes reprises, parce que le pouvoir politique aurait bien mieux aimé qu'il parte, comme Kundera et comme d'autres.
Alors cela dit, au début des années 80, les choses vont un peu mieux, si je puis dire, pour les pays de l'Est, parce que en URSS même, voilà que Gorbatchev se lance dans la perestroïka, et là, bien entendu, pour les dissidents comme Havel ou d'autres dans d'autres pays de l'Est, les choses sont un peu plus faciles, et en revanche, le gouvernement tchécoslovaque, comme d'autres gouvernements communistes, sont très embarrassés.
Oui, c'est-à-dire
Gorbatchev,
que
ça a quand même donné un sacré coup de pouce aussi à ce qui va se passer en Tchécoslovaquie et ailleurs.
Ce que Havel a marqué, c'est que la Tchécoslovaquie a été l'une des dernières à se libérer du joug communiste, et que dans la dernière période, le pouvoir politique se sentant menacé était d'autant plus virulent qu'il se sentait menacé. Mmh. Et donc il y avait une espèce de réaction d'un pouvoir moribond qui s'accrochait au pouvoir.
Et ce pouvoir va effectivement se réagir brutalement, comme il le fera le 16 janvier 1989, France Inter, Alain Bédouet et Pierre Veil, le 21 février 89.
La perestroïka chère à Gorbatchev s'exporte mal, semble-t-il. Le dramaturge tchécoslovaque Václav Havel a été condamné cet après-midi à Prague à 9 mois de prison ferme pour avoir troublé la paix publique. En fait, le dissident était poursuivi pour avoir incité à participer à un rassemblement interdit, Pierre Veil, rassemblement à la mémoire de Jan Palach, ce jeune étudiant qui s'était immolé par le feu il y a 20 ans déjà pour protester contre l'invasion soviétique.
C'était le 16 janvier dernier. Havel et d'autres manifestants voulaient déposer des fleurs place Venceslas, à l'endroit où Jan Palach s'est donné la mort. La police a chargé avec une extrême violence. Havel a été arrêté et risquait pour cela 2 ans d'emprisonnement. Il est condamné à 9 mois. Le jugement est sévère. Reste à savoir quelle sera la réaction de la population. Havel est un des dissidents les plus célèbres en Tchécoslovaquie. On le compare à Sakharov ou Valéza. À cause de ses idées, il a déjà passé 5 ans en prison. Cette condamnation va encore accroître son prestige. Tout le contraire de ce que souhaite le gouvernement tchécoslovaque.
Et oui, effectivement, c'est ce qui se passe. Havel, à ce moment-là, devient le contestataire, enfin l'alternative pour tous les contestataires de Tchécoslovaquie.
Oui, je crois qu'il a été très connu à l'étranger. Il est devenu une espèce d'emblème puisque les intellectuels à l'étranger, lors de sa longue incarcération de 79 à 83, avaient fait une nuit pour Havel en Avignon. Ariane Mnouchkine avait monté un spectacle également à Paris. Donc je crois, si vous voulez, que sur le plan international, il était peut-être encore plus connu qu'il ne l'était à l'intérieur. Et c'est ce qu'on a dit encore ces dernières années, une fois qu'il est devenu président. On a dit qu'il était peut-être encore davantage admiré à l'extérieur qu'à l'intérieur, où les mentalités sont devenues plus mitigées à son égard, compte tenu bien sûr de l'exercice et de l'usure du pouvoir.
D'autant plus qu'à l'intérieur, personne, je crois, n'avait pu voir, lui-même non plus d'ailleurs, n'avait pu entendre ses propres textes. Ses pièces de théâtre n'étaient pas jouées, elles étaient interdites.
C'était un auteur interdit, donc il a reçu 2 fois le prix Obie aux États-Unis, il a reçu énormément de distinctions à l'étranger, Paix de la Paix à Francfort, etc. Donc il était vraiment reconnu internationalement, mais sur le plan intérieur, il restait un paria.
Alors un paria, mais un paria célèbre, il va créer, alors il y a toute une période qui va de janvier 89 à novembre 89 d'incertitude. Il faut rappeler qu'au même moment le mur de Berlin va tomber, il y a les gens qui s'en vont de plusieurs pays de l'Est, dont les Tchèques qui tentent de le faire aussi. Le régime ne sait plus très bien que faire, c'est un véritable chamboulement, et c'est dans ce contexte qu'Havel crée le forum, ce qu'on appelle le forum civique, je crois, le 19 novembre 89. C'était quoi le forum civique, Geneviève et Vincent Boulan?
Havel a souvent dit que c'était un mouvement tout à fait informel parce qu'Havel a toujours refusé d'adhérer à un parti quel qu'il soit. Donc en fait, c'est après les grandes manifestations d'octobre, c'est un moyen de rassembler, si vous voulez, le peuple pour arriver à changer les choses. Et ça durera encore plusieurs mois, bien sûr, après le renversement du régime, mais ça finira par se dissoudre, dans la mesure où ça n'est pas un parti de plus.
En tout cas, il organise des manifestations immenses. Le 21 novembre, Havel apparaît donc sur le balcon d'un journal, sur la place Venceslas. Alors là, les Tchécoslovaques le voient pour la première fois, mais en même temps, ils l'acclament. Et puis alors, la pression de la rue est telle que le président tchécoslovaque, Gustav Hušák, est poussé à la démission le 10 décembre 1989, France Inter, Henri Charpentier.
Bonsoir. Gustav Hušák, président tchécoslovaque, démissionne. Le mouvement d'opposition Forum Civique entre en force au gouvernement. L'écrivain Václav Havel, acclamé par la foule, candidat officiel des réformateurs pour la présidence de la République.
C'était Marta Kubišová, qui était très célèbre, je crois, depuis 1968, Geneviève Evin-Grandboulan, et qui était acclamée par cette foule de la place Venceslas en novembre et décembre 89.
Oui, la musique a son rôle, si vous voulez, dans les événements tchécoslovaques, puisque la charte 77 a été en partie motivée par les poursuites et la condamnation en justice d'un groupe de rock qui s'appelait The Plastic People of the Universe. Et donc Marta Kubišová, elle aussi, après 68, a été interdite pendant 20 ans de scène en Tchécoslovaquie. Et Havel est très intéressé aussi bien par la musique que par la peinture, toutes sortes de mouvements. On a évoqué le théâtre, mais dans les lettres à Olga, il réclame aussi des disques, des Bee Gees à sa femme, etc. C'est un homme moderne.
Alors, après les manifestations que l'on vient d'entendre, Havel, nous l'avons rappelé, est devenu président de la Tchécoslovaquie. Quelle revanche extraordinaire, parce que il est désigné par un parlement composé d'une majorité de députés communistes. Et puis alors, il va rester 13 ans président, avec un bilan un peu mitigé. D'abord, en 92, il démissionne. Pourquoi ? Parce que son pays, contre son gré, il ne voulait pas, se divise. La Slovaquie devient indépendante et se sépare de la République tchèque.
Absolument. Il y avait déjà eu la querelle qu'on a appelée la querelle du tiret, pour savoir si on mettait tchéco, tiret, Slovaquie. Enfin, il y avait des rapports un peu difficiles entre les deux pays. Et Havel a considéré que c'était effectivement un très fort échec. C'est la raison pour laquelle il a démissionné, mais il a été immédiatement réélu. Donc il est resté 13 ans président en tout. Donc ensuite, c'est devenu la République tchèque.
Et amarré à l'Occident, au point d'ailleurs que Havel va intégrer son pays à l'OTAN, négocier son entrée dans l'Union européenne, ce qui va se faire le 1er mai prochain. Mais il va être tellement pro-occidental qu'à la fin, à l'extrême fin de son mandat, avant qu'il quitte la présidence en 2003, il y a quelques mois, il va même soutenir l'intervention américaine en Irak.
Oui, parce que ici, je crois qu'il faut le comprendre par des raisons historiques, parce qu'en fait, quel qu'ait été, si vous voulez, le sentiment pro-européen et en particulier pro-français des Tchèques au cours de leur histoire, il y a eu la trahison de Munich, alors que les États-Unis sont restés un allié plus fiable. Et dans ces conditions, Havel a considéré qu'il fallait soutenir ce combat, qu'il considère comme un combat pour la liberté, analogue à celui qu'ils ont mené à l'intérieur de la Tchécoslovaquie et de la Pologne.
C'est dans le même esprit qu'il s'est battu pour l'intervention en Bosnie, par exemple.
Oui, absolument. Ouais. Oui, et qui se bat toujours pour les dissidents, encore à l'heure actuelle, si vous voulez, pour les dissidents cubains et pour d'autres types de dissidents, comme la dissidente birmane Aung San Suu Kyi. Je crois que, si vous voulez, à côté de l'aspect, bon, toute action politique a des côtés, bien sûr, décevants. Il a dit d'ailleurs que c'était une longue attente et qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait quand on était en politique. C'est pas comme une théorie philosophique, si vous voulez, comme un livre qu'on peut mener de façon rationnelle comme on veut. Mais en fait, son grand succès, ça a été à la fois la paix intérieure en évitant la chasse aux sorcières et le rayonnement international de son pays.
Merci Geneviève Evin-Grandboulan. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre, Vaclav Havel, président philosophe, qui vient de paraître aux éditions de l'Aube et qui est préfacé par Paul Ricoeur. Et vous avez également écrit Une femme de pensée, Hannah Arendt, dont vous voudrez, j'espère, nous parler un jour. Un livre publié en 1990 chez Economica dans la collection Anthropos. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Benjamin Dagatiné et Michel Thomas, Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Sandra Escamez. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Dominique Costa.